Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Qu'est-ce qu'aimer quand on est chrétien? Être charitable, être solidaire? Est-ce tout donner sans rien attendre en retour? Dans la nécessaire réforme de l'Église, ne faudrait-il pas commencer par revenir à cette invitation du Christ? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Élément de réflexion dans Vivante Église. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, c'est le titre du dernier ouvrage de l'invité de Radio Présence, Emmanuel Tourpe. Bonjour.
Bonjour Isabelle et bonjour aux auditeurs.
Merci de faire ce détour par nos studios avant de rejoindre Paris, puisque vous êtes de passage à Toulouse. Vous avez donné deux conférences à l'Institut catholique de Toulouse. Vous êtes philosophe et enseignant. Votre livre démarre fort, Emmanuel Tourpe. Vous dites que nous avons à peine commencé à être chrétiens. Qu'est-ce qui vous fait penser cela?
Vous savez, je suis un vieil observateur de l'Église, ayant été moi-même séminariste pendant des années. Et puis je suis théologien en plus de philosophe, et donc je suis un observateur de l'intérieur de l'Église. Et donc, forcément, rien ne m'échappe d'abord de moi-même, et de mes propres pratiques, et de mes propres défauts, et de mes propres péchés. Et évidemment, rien ne m'échappe non plus de ce que nous vivons en Église, et peut-être de ce point que j'essaie de mettre en avant dans cet ouvrage, qui est de dire, voilà, on est tous en train de s'inquiéter de questions de réforme, de questions de synodalité, de questions de pouvoir au sein de l'Église. Eh bien, si avant ces questions, nous mettions au cœur du débat, peut-être le point de départ, peut-être ce qu'on a fini par oublier, peut-être la lettre volée d'Edgar Poe qui est sur la table et que plus personne ne voit. Le commandement principal du Christ, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Ça veut dire, Isabelle, pas au fait que vous soyez pour le cardinal Sarah ou pour le pape François, ça veut dire pas pour le fait que vous soyez pour l'Église allemande ou l'Église américaine, pas pour le fait que vous soyez pour une réforme liturgique ou pas une réforme liturgique. Le premier point, le fondement, et alors c'est très drôle parce qu'on finit par l'oublier tellement c'est visible et présent, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On ne dit pas à l'amour pour les pauvres, on ne dit pas à l'amour pour la solidarité, l'amour de Saint Vincent de Paul, l'amour de l'abbé Pierre, l'amour de Mère Teresa. L'amour que vous aurez les uns pour les autres. On vous reconnaîtra comme mes disciples.
Donc ça, c'est effectivement cette phrase du Christ qui est extrêmement exigeante. Et nous allons voir tout au long de cette émission pourquoi c'est difficile de l'appliquer. Vous avez au début de votre ouvrage cette réflexion sur les saints fondateurs d'ordre religieux qui sont facilement, on va dire, plus facilement canonisés. Et puis vous considérez qu'en fait on se trompe de modèle de sainteté. Est-ce qu'il y aurait un nouveau modèle de sainteté à inventer?
Il est évident d'abord que dans l'histoire, beaucoup des statues de saints ont remplacé les statues des dieux antiques et qu'on a tendance évidemment à reprendre l'héritage antique de manière non critique. Alors évidemment qu'il y a des saints, bien sûr qu'il y a une communion des saints. Mais ce que je veux mettre en lumière et qui est un point important, c'est ce point suivant. Vous savez, on commence à peine à canoniser des couples. On commence tout doucement à faire du côté de la famille de Thérèse de Lisieux, on commence à canoniser tout doucement des modèles de famille. Eh bien moi je demande, quand canoniserons-nous des paroisses entières? Quand canoniserons-nous des communautés entières? Et pas seulement parce qu'elles sont passées au fil de la guillotine sous la Révolution, mais parce qu'elles se sont aimées, de manière héroïque. Et donc le point que je voudrais simplement mettre devant les yeux, et là encore c'est en théologien comme en philosophe, c'est à quel moment allons-nous entrer dans ce qui est le propre de la charité chrétienne, qui n'est pas seulement la charité pour les pauvres, qui n'est pas seulement le fait d'être dans la conférence Saint-Vincent de Paul, qui n'est pas dans le fait de confier à Sœur Emmanuelle toute la dimension de la charité, qui n'est pas dans le simple fait de l'amour du lointain, mais de l'amour du prochain, ça veut dire en Église, dans un amour réciproque. Et Isabelle, moi, le point que je souhaite vraiment mettre devant les yeux, et qui est un point qui est pourtant normalement omniprésent, mais qui finit par être comme l'air qu'on respire, invisible, c'est que nous sommes invités à la communion trinitaire. La communion trinitaire, c'est pas un Dieu qui se donne comme un héros tragique, comme une pio pelicanée qui s'arrache le cœur pour le donner de manière gratuite et dispendieuse. C'est une communion, c'est un don réciproque. Le modèle de l'Église, c'est la vie trinitaire, c'est la communion, c'est le don réciproque. Et donc moi je dis, mais à quel moment est-ce qu'on va mettre cette communion réciproque au début de toute réunion? réforme. Or, en observateur, notamment des médias, puisque je suis homme des médias également, qu'est-ce que j'observe simplement sur cet affichage de nos pratiques qui est les réseaux sociaux ? On ne peut pas être plus visible que sur les réseaux sociaux. L'Église catholique est visible sur les réseaux sociaux. Et comme spécialiste des médias, qu'est-ce que j'observe de nos pratiques d'Église sur les réseaux sociaux ? J'observe ceci qui est pour moi un constat déchirant. Non seulement nous ne sommes pas meilleurs que les autres sur les réseaux sociaux, mais nous sommes pires. Nous sommes pires,
Isabelle.
Parce
que nous nous déchirons.
Nous sommes en permanence en train d'être plus que les autres, intoxiqués par cet individualisme narcissique qui est le cancer de la société contemporaine. Et plus que les autres, nous avons notre petit pape, nous avons notre petite théologie, nous avons notre petit point de vue sur telle encyclique, sur telle fiducia, sur tel écrit d'église, sur telle pratique du pape François. J'observe sur les réseaux sociaux un flot de haine. Un flot de haine qui se promène sur les réseaux sociaux au nom d'une religion qui est la mienne, qui est celle du catholicisme, dont le mot d'ordre est « à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples ». Et j'observe, en échange de cette monnaie que le Christ nous a donnée, exactement la face inverse, un flot de détestation, des clivages externes, des catholiques qui se déchirent autour de questions d'ecclésiologie auxquelles pour la plupart ils ne comprennent rien et qui, au nom de Dieu, s'entretuent visiblement à la face des réseaux sociaux et nous rendent ridicules devant la face du monde.
Il y a pourtant des bonnes choses sur les réseaux sociaux et certains catholiques s'engagent pour témoigner, pour annoncer la beauté de la foi, pour donner des éléments de réponse à toutes ces personnes qui se posent des questions. On ne peut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain.
Bien évidemment. Mon point est un point qui est un peu hérité, vous savez, d'un auteur qui s'appelait Léon Blois. Léon Blois, qui avait un côté un peu hyperbolique, un peu pamphlétaire, un peu exagéré dans son propos, mais qui disait un mot que je reprends à mon compte, qui est « l'amour est implacable ». L'amour est implacable. Or, s'il est vrai que sur les réseaux sociaux, bien évidemment, se promène ici ou là tout un ensemble d'écrits, et moi-même, je tiens des réseaux sociaux que j'alimente autant que possible et autant que je peux, bien évidemment qu'il y a sur les réseaux sociaux des chrétiens qui font des choses qui sont tout à fait valeureuses. Mais si l'on observe, et là je l'observe de manière froide, je l'observe comme un observateur patenté que je suis, puisque c'est mon métier par ailleurs, je dois bien le dire, Isabelle, le spectacle que nous donnons sur les réseaux sociaux est non pas le spectacle que nous devrions donner, c'est-à-dire d'un recul critique sur tout ce qui sur les réseaux sociaux est clivant, tout ce qui sur les réseaux sociaux porte à la haine, à la détestation. En réalité, nous sommes tombés dans le piège, le double piège, d'une société totalement individualiste et narcissique, et nous le sommes tout autant et plus que les autres, et le double piège se comporte également, se tient également du côté des réseaux sociaux qui, on le sait, sont clivants, qui mettent en avant davantage les propos qui sont davantage agressifs et davantage offensifs, et nous tombons pour beaucoup d'entre nous dans ce piège. Mais mon point, Isabelle, n'est pas seulement sur les réseaux sociaux.
Avant oui, d'avancer, je voudrais peut-être vous faire réagir. Vous avez parlé de Fiducia Supplicans, hein, lettre apostolique qui a fait beaucoup de bruit juste avant Noël. Évidemment, il y a eu énormément d'échanges sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas aussi, mis à part la question de la violence des propos, est-ce qu'il ne peut pas y avoir quand même un échange entre les chrétiens pour essayer de comprendre ces textes et de voir comment ils peuvent être appliqués ?
Bien évidemment. D'abord, Fiducia, on va être tout à fait clair, c'est un texte qui était maladroit, qui est tombé au mauvais moment et qui était mal écrit. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Mais le point qui était choquant n'était pas tellement le fait que ça ait prêté à des débats, n'est pas le fait qu'il y ait eu des disputes sur ce sujet totalement légitime. Ce qui a été observé, et j'en étais un observateur de première place pour avoir été un contributeur également du débat, ce que j'ai observé, c'est le caractère irrationnel, c'est le caractère pratiquement primal d'un grand nombre de réactions qui, loin d'être des réactions rationnelles, posées en Église, pleines précisément de charité, ont montré au contraire un déferlement de haine, la plupart du temps homophobe, on va mettre les mots sur les choses, et qui, au lieu de pointer les limites d'un texte qui effectivement méritait d'être montré comme particulièrement problématique, ont montré en face inverse des comportements pratiquement instinctifs qui étaient des comportements primaires, des comportements tribaux et des comportements qui en fait relevaient de quelque chose qui pour moi n'ont plus rien de théologique, plus rien d'ecclésial et au contraire relèvent d'un comportement de société et d'un comportement de société que nous aurions dû convertir. C'est-à-dire un comportement de société essentiellement plein de haine, essentiellement plein, je répète ce mot que j'ai dit déjà plusieurs fois, mais qui est pour moi un point déterminant, plein d'un individualisme narcissique. Et cet individualisme narcissique qui est, comme je l'ai dit, le cancer de la société, nous l'avons importé dans l'Église et nous l'avons importé dans nos pratiques ecclésiales.
Vous considérez que trois dévoiements principaux empêchent les chrétiens d'aimer en vérité. Quels sont-ils, hein, Emmanuel Tourpe?
On va dire que le tout premier et celui finalement auquel nous sommes tous confrontés, c'est de se dire que cette idée de saint Paul, là, hein, que y a la foi, l'espérance et la charité, mais saint Paul complète la charité la plus grande. On considère assez facilement que c'est de l'idéalisme, hein. C'est un truc pour débutants, c'est pour commençants, c'est de la confiture, c'est du sucre. Enfin, soyons un peu sérieux. Il faut quand même défendre Dieu contre une société qui ne cesse pas de l'agresser. Il faut que je défende mon hôtel avec les fleurs de lys plutôt qu'avec les tulipes contre ce que Madame Germaine veut y mettre. Il faut que je défende mon budget au sein de la fabrique d'église contre tous les méchants qui voudraient empêcher que je prenne plus de cierges la semaine prochaine. Enfin, soyons un peu sérieux, quoi. C'est l'idéalisme pour débutants, la charité. Non. 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 À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples. Et cette parole est incontournable, et cette parole est contournée, constamment, parce que notre réalisme pragmatique, notre bon gros sens, nous fait tous les jours remiser cet unique et dernier commandement, cet ultime commandement au lavement des pieds, et nous le fait le contourner en permanence, parce que nous estimons qu'il faut quand même, allez, être un peu réaliste. C'est bien gentil cette histoire de s'aimer les uns les autres. Enfin, concrètement, si nous voulons être un tout petit peu sérieux, on ne va pas s'aimer quand même tous les jours. On va laisser la charité dans le tiroir où on l'a bien rangée, c'est-à-dire du côté de Saint-Vincent de Paul, c'est-à-dire du côté de l'abbé Pierre, c'est-à-dire du côté de Sœur Emmanuel, c'est-à-dire du côté de la charité pour les pauvres.
Est-ce que vous voulez dire qu'on fait des petits arrangements avec l'amour ?
Alors, les petits arrangements, ils sont pas seulement des petits arrangements, mais je crois qu'on a tous, en réalité, un défaut de conversion, et moi le premier. Combien de fois j'observe que nos comportements de chrétiens sont secondaires? On est d'abord un homme de droite ou une femme de gauche, et puis ensuite, on s'arrange avec son christianisme. On est d'abord quelqu'un qui a un gros caractère de cochon ou au contraire un caractère extrêmement changeant, et puis finalement, le christianisme, ma foi, n'a qu'à s'arranger avec ses déterminations de caractère. On est quand même héritier d'une certaine sociologie de classe, voilà, je suis d'une grande famille, ou bien je suis au contraire d'une famille qui est bourgeoise, et puis je m'arrange avec mon christianisme, avec cet atavisme, avec cet héritage sociologique. Nous mettons en permanence notre caractère, notre famille, nos choix politiques.
Comme des excuses, finalement ?
Pas comme des excuses, comme nos déterminants principaux. À quand remonte la dernière fois que nous avons mis nos choix politiques devant l'unique commandement du Christ, qui est « Aimez-vous les uns les autres ». À quand remonte la dernière fois que j'ai remis mon caractère devant l'unique commandement du Christ, aimez-vous les uns les autres? À quand remonte la dernière fois que j'ai remis mon héritage familial, ma sociologie, tous les plis familiaux et tous les plis sociologiques qui sont les miens, devant l'unique commandement du Christ, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples? À quand remonte la dernière fois que j'ai commencé par être chrétien avant d'être l'homme que je suis ou la femme que je suis avec tout son héritage?
Et pourtant, Emmanuel Tourpe, on est dans ce temps pascal et nous avons vécu ce passage de la mort à la résurrection. Nous sommes des ressuscités, nous sommes debout. Nous avons, nous chrétiens, ce désir d'adhérer au Christ et de le suivre. Qu'est-ce qui bloque finalement?
Mais je pense qu'il y a deux choses qui bloquent. C'est d'abord que nous sommes trop religieux. Nous sommes trop religieux au sens où nous nous comportons, au final, assez souvent comme des talibans. C'est-à-dire comme des gens qui pensent qu'il faut défendre Dieu de tous les méchants, de tous les mécréants, et que d'une certaine façon, notre religion est une religion comme les autres, dans lesquelles eh bien, Dieu a besoin d'être défendu par nos armes, par notre glaive, par notre violence et notre agressivité, et que d'une certaine façon, il faut sauver Dieu de Dieu. Or, la religion chrétienne est la religion de la sortie de la religion. Dieu n'a pas besoin que nous le défendions. Dieu s'est incarné. C'est lui qui est descendu dans notre chair. C'est lui qui met en nous le sceau de la Trinité, le sceau de la communion. La religion, de la sortie de la religion, ça veut dire que nous n'avons pas à nous comporter comme des talibans qui défendent Dieu. Nous ne sommes pas une religion qui défend un absolu qui a besoin, avec violence, d'être énergiquement défendu. C'est exactement l'inverse. Le christianisme a pour point central les béatitudes. Heureux les doux, heureux les pauvres, heureux êtes-vous si l'on vous persécute. C'est précisément dans le cœur doux et humble du Christ que se trouve la racine de nos comportements. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes des imitateurs du Christ. Et nous sommes profondément invités à la seule vertu qui compte, qui n'est pas la vertu religieuse, qui est la vertu d'humilité et de pauvreté et de douceur qui se trouve dans le cœur du Christ. C'est cela qui est au cœur de notre religion. Deuxième point, et c'est là encore quelque chose que je redis parce que c'est un leitmotiv dans ma compréhension des choses. Tout autour de nous, depuis à peu près le début des années 1980, il y a un retournement dans la société qui est devenu ce que j'ai appelé tout à l'heure son cancer. Nous sommes entrés dans une société qui a été décrite par les sociologues, une société d'individualisme narcissique, une société qui s'est archipélisée, une société qui s'est atomisée, une société dans laquelle il y a des tribus et non plus un village global, une société dans laquelle il y a des guerres de convictions partout.
Et des communautarismes monumentaux.
Mais à quel moment est-il entré dans l'Église ? Que s'est-il produit pour qu'au sein même de l'Église, nous n'ayons plus une Église, mais une multitude de chapelles ? La manière dont je vois qu'aujourd'hui, on est capable de s'écharper, et je dis bien de s'écharper, sur la question du nom du cardinal Sarah, pour ou contre, de s'écharper sur tel ou tel nom d'évêque, de s'écharper, et je dis bien de s'écharper, parce que je vois des flots de détestation autour du pape François, mais à quel moment a-t-il été dit que notre Église était un ensemble de petites chapelles pour ou contre tel évêque, pour ou contre telle pratique liturgique ? À quel moment avons-nous échappé à ce qui est l'unique commandement ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Dans la défense de ces petites chapelles, vous disiez au début, vous venez de dire, Emmanuel Tourpe, que Dieu n'avait pas besoin d'être défendu. Et pourtant, Dieu, comme vous l'avez dit, s'est incarné dans la personne de Jésus. Il veut avoir besoin des hommes pour être témoin de sa présence dans le monde et de son amour.
Et évidemment, l'incarnation, et plus que l'incarnation, l'histoire même de l'Église montre un point qui est décisif, c'est que Dieu a besoin de notre coopération. Dieu a besoin que nous soyons ses mains, ses pieds, son cœur. Bien évidemment que nous soyons, pour le dire avec certains mystiques, son incarnation de surcroît. C'est un très beau mot d'Élisabeth de la Trinité. Que nous soyons son incarnation de surcroît. Et toute la distance qui nous sépare entre la résurrection et le retour glorieux du Christ est précisément uniquement due à cette volonté qu'a le Seigneur, que nous participions à son esprit, que nous fassions croître dans la chair de notre histoire, dans la chair de notre Église, précisément tout ce que les dons de l'Esprit veulent faire grandir en nous. Mais nous n'avons pas à le faire à la manière de ceux qui sont pour Mahomet, de ceux qui sont pour le Yahvé de la guerre et du glaive. Nous n'avons pas à le faire à la manière des religions anciennes qui défendent Dieu à coups de tonnerre, à coups de glaive, à coups de « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. »
À cause de guerre religieuse, finalement.
Précisément. Oui. La religion que le Christ instille dans nos cœurs est une religion, une fois pour toutes, d'amour. Or, pour la plupart et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de l'oublier. Nous ne sommes pas une religion du Dieu, de l'absolu abstrait. Nous sommes la seule religion dans laquelle Dieu montre. Et c'est la seule qui l'a dit. Et c'est la seule qui, dans l'histoire, s'est manifestée comme elle, comme telle, pour une philanthropie divine. Dieu m'a aimé, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. Et cette goutte de sang pour toi, elle vaut pour tel individu que je croise à la gare et dont la tête me déplaît. Cette goutte de sang pour toi, elle vaut pour tel individu qui, en voiture, vient de me griller la priorité et que j'ai envie d'insulter. Cette goutte de sang pour toi, elle vaut pour l'homme politique qui vient de voter une loi pour l'IVG alors que je n'en veux pas. Cette goutte de sang pour toi, elle vaut pour machin ou truc dans ma paroisse qui n'est pas d'accord avec moi sur le cardinal Sarah. J'ai versé telle goutte de sang pour lui et pour toi. C'est une religion de l'amour et non pas du Dieu vengeur qu'il s'agirait de protéger à coups de sabre.
Une religion d'amour, après cette démonstration fort étayée que les chrétiens ont à peine commencé à être chrétiens, je vous propose de marquer une pause, une petite pause pour reprendre un peu de souffle et puis écoutez, Aimer c'est tout donner, interprété par Natacha Saint-Pierre.
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner
présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
C'était Natacha Saint-Pierre qui interprétait Aimer, c'est tout donner avec Thomas Pouzin. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, c'est le titre du dernier ouvrage du philosophe Emmanuel Tourpe aux éditions Artege de passage dans notre région. Emmanuel Tourpe, nous connaissons bien ces trois dimensions de l'amour, Eros, Philia et Agapé. Et dans votre ouvrage, vous estimez qu'on oublie deux autres sortes d'amour. Là, j'avoue que ça a été une découverte pour moi. En tout cas, ces deux termes, Storgène et Elemosina, je ne le dis certainement pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, bah, y a une espèce de vulgate comme ça qui circule avec Eros, Agapé, Philia. Mais en réalité, c'est une partie de l'extension du champ lexical de la charité et de l'amour en grec. Alors, il y a notamment le Storgein qui revient à dire le fait de chérir, le fait d'avoir des sentiments de grande tendresse. C'est l'affection. C'est l'affection au sein d'un couple ou bien l'affection pour ses enfants et qu'on oublie toujours également et qui est un grand terme de la charité dans le langage grec, y compris dans le langage du Nouveau Testament. Et alors, il y a le deuxième qui est la compassion. Le fait d'avoir les entrailles qui sont retournées et le fait d'avoir, on dirait aujourd'hui un peu platement, de l'empathie, mais qui revient vraiment à la compassion qui remue les entrailles.
La miséricorde, en fait.
Et qui revient en réalité au terme hébreu de la miséricorde, dans lequel Dieu lui-même a, on va le dire littéralement, l'utérus retourné pour ceux qu'il aime. Donc le point aussi, derrière le fait qu'on oublie la plupart du temps ces deux termes, ça m'amène un tout petit peu à dire que souvent sur ces questions d'amour, c'est le bazar. Hein. J'ai un petit mot que je crois un peu amusant, qui est de dire qu'on est devant le bazar de la charité.
Oui, c'est un des titres de votre chapitre.
Mais parce qu'on oublie, au fond, de voir toutes les dimensions de l'amour. Toutes les dimensions de l'amour chrétien. Parce qu'on mélange à peu près tout. Il faut dire que les évangélistes ne nous aident pas. Ils ne nous aident pas parce que ce que présente Luc n'est pas ce que présente Matthieu, n'est pas ce que présente Marc et n'est pas ce que présente Jean. Mais c'est une chance parce que justement chacun met en lumière un aspect du diamant.
C'est complémentaire.
Mais évidemment. Et c'est même extrêmement complémentaire et ça constitue ce qu'on appelle l'ordre de la charité. Et l'ordre de la charité, Isabelle, il a quatre dimensions et ces quatre dimensions ne sont pas toujours claires en domaine chrétien. Et je me permets, à la suite d'un certain nombre d'exégètes et de théologiens, de les rappeler. D'abord, dans l'ordre de la charité, il y a aime-toi comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. L'ordre de la charité commence par l'amour de soi. Pourquoi ? Non pas parce que je vaux quelque chose, non pas parce que je serai bon, non pas parce que je serai beau, non pas parce que je serai magnifique, mais parce que Dieu m'a aimé le premier. Parce que Dieu m'a aimé le premier. Alors il ne s'agit pas de faire du développement personnel et de se chouchouter en se disant « qu'est-ce que tu es magnifique malgré tous tes échecs, continue, personne ne t'aime et t'es le plus beau ». Ce n'est pas la question. Dieu m'a aimé. Et donc, je me dois moi-même de consentir à cet amour.
Et c'est aussi rendre grâce pour ce que l'on est, parce qu'on est créé par Dieu.
Et c'est rendre grâce, c'est la racine même de l'Eucharistie, qui n'est pas seulement un sacrement, qui est une attitude de vie. Eucharistie, c'est une attitude de vie. Remercier. Donc, d'abord, l'amour de soi. Et ça, dans l'ordre de la charité, il faut s'en rappeler, parce qu'il y a tout un discours comme ça qu'on retrouve même dans certains livres assez célèbres de mystiques, hein, comme l'Imitation de Jésus-Christ, qui par ailleurs a plein de qualités, mais qui a aussi beaucoup de défauts, parce qu'il est truffé de phrases totalement païennes, notamment quand il parle de la détestation de soi-même, de se vomir soi-même, d'avoir pour soi-même du dégoût absolu. Non.
Oui, mais non. Ça, c'est un peu dépassé. Maintenant, on a compris que...
Oui,
qu'il fallait quand même s'aimer soi-même.
Oui, mais quand même. Et je crois qu'il y a toujours cette idée, finalement, que le sacrifice solitaire, y compris dans un couple, hein, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un prêtre dans sa paroisse, que voilà, le don absolu de soi sans retour, c'est quelque chose qui serait le modèle chrétien. Eh bien non, et ça me conduit à la deuxième étape. La deuxième étape de l'amour, après l'amour de soi-même, c'est l'amour réciproque. L'amour les uns les autres, qui est celui de l'amour en église, évidemment, celui de l'amour en paroisse, celui de l'amour en famille, celui de l'amour dans une communauté, celui de l'amour entre les collègues d'une radio, celui tout simplement de l'amour réciproque. Et ça, c'est souvent le point qui nous échappe. D'abord parce qu'il est plus facile, encore une fois, de le mettre du côté de l'amour des pauvres. Hein, cette charité chrétienne, c'est quand même plus simple de le mettre dans un tiroir. Eh bien, le point, et le point 2 est fondamental. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Cette réciprocité, souvent, on la sacrifie la notion chrétienne de la donation. L'amour chrétien, ce serait le don.
Et il y a même comme l'oblation, ça, peut-être.
Oui, l'oblation, le sacrifice, le don. Il y a même toute une théologie du mariage, voire même de la sexualité, qu'on retrouve dans lequel faire l'amour, c'est totalement se donner à l'autre. Faire l'amour, c'est se perdre dans l'autre, se sacrifier à l'autre. Ou bien, tout simplement, une théologie du couple dans laquelle plus tu te sacrifies à l'autre, plus tu es chrétien. Ah!
En fait, il manque la dimension de la réception,
l'échange. Il manque la vie trinitaire. Il manque le sceau trinitaire. La vie trinitaire, c'est pas juste le Père qui se perd dans le Fils et le Fils qui, avec le Père, spire l'Esprit.
C'est une communion d'amour qui circule.
C'est une donation réciproque. C'est une donation réciproque. La réciprocité, ce n'est pas le mécanisme du retour du don. La réciprocité, c'est pas perdre quelque chose de la gratuité du don. C'est le mouvement naturel du don qui, en retour, reçoit le don, qui le remercie, qui l'enveloppe et qui se rend lui-même. Vous savez, je suis très, très, très inquiet, personnellement, de toute une théologie ou une pastorale du mariage, dans lequel, en particulier, on n'apprend plus au couple à rester couple dans la famille. on donne l'impression que voilà, les enfants, c'est le destin du couple et que le couple doit se perdre dans l'éducation des enfants, que les enfants sont d'une certaine façon le destin du couple. Non ! Je vais même aller assez loin. Et moi-même, j'ai 4 enfants. Les enfants peuvent être le pire danger pour un couple. Les enfants peuvent manger le couple. Les enfants peuvent dévorer la vie du couple.
Mais ça, on le dit maintenant. On dit attention, faites attention à votre couple. Si votre couple va bien, vos enfants iront bien.
Eh bien, il faut aller encore un pas plus loin.
Oui.
C'est le couple qui reste la racine de la fécondité. Le couple doit non seulement se préserver lorsqu'il a des enfants, mais le couple doit rester la source et le fondement de toute la vie familiale. Et cette réciprocité, ce don réciproque, il faut arrêter de le perdre dans l'idéal d'une mère de famille qui doit sacrifier pour toute sa famille, et puis on trouve les choses sept mal rangées, et puis les enfants sont tout étonnés que le linge soit plié le soir sans dire un merci. Cela suffit.
Ça, c'est une source d'épuisement aussi.
C'est une source d'épuisement. De la même manière, je le dis, quand on envoie des prêtres gérer 40 paroisses, les pauvres qui mangent leur boîte de sardines dans leur coin tout seul et pas une personne de la paroisse qui les invite jamais le dimanche ou qui s'occupe de le soir. Et à côté de ça, et je lis sous la plume de vicaires généraux que ces prêtres sont très heureux parce qu'ils ont des paroisses qu'ils aiment. Mais les prêtres ne sont heureux que si les paroisses les aiment en retour. Les prêtres ne sont heureux que s'il y a une communauté qu'il leur rend amour pour amour. Les prêtres ne sont heureux, évidemment, que s'il y a autour d'eux une communauté qui les porte, qui les soutient et qui les aime, que s'il y a cette réciprocité entre le don qui se donne et le don qui revient en retour. Et ça, c'est la deuxième gradation de l'amour. Il y en a encore deux autres.
Alors, avant de passer à ces deux autres, vous faites référence dans votre ouvrage au testament du père Cyril Gordien, qui est mort il y a l'année dernière, le 14 mars 2023. C'est un exemple d'un prêtre qui s'est beaucoup donné et qui finalement s'est épuisé parce qu'il a reçu en retour beaucoup d'ingratitude.
Mais il faut juste un moment mettre les mots sur les choses, hein. On est les spécialistes en Église du vernis de la charité. On a des très beaux discours sur l'amour. On a des très beaux discours sur ce que les autres doivent faire en dehors de l'Église en matière de management, en matière de gestion humaine, en matière d'économie. On est les spécialistes de la donation de leçons pour tout ça. Mais que de souffrances en interne à l'Église. Que de souffrances, que de gens broyés par des évêques, que de gens broyés par des recteurs, que de gens broyés par des personnels d'Église, que de gens qui souffrent dans l'Église. Tout simplement parce qu'on est des très bons donneurs de leçons, mais qu'en interne, on a une difficulté monumentale à l'appliquer. Soyons peut-être le premier objet de nos encycliques, soyons le premier objet de nos homélies, et soyons au final le premier sujet de la charité.
Alors, vous avez parlé de ces quatre dimensions de l'amour comme quatre facettes d'un diamant, s'aimer soi-même, s'aimer les uns les autres mutuellement. La troisième facette ?
Alors, la troisième, qui est la plus connue, mais qui aujourd'hui, en ordre politique chrétien, est la moins comprise, c'est l'amour de tout homme. Alors, c'est la parabole du Samaritain. Le prochain, c'est celui dont tu t'approches. Et ça, c'est une dimension qui est totalement spécifique au christianisme. Vous savez que la notion d'amour pour les autres existe en islam, mais elle est limitée à l'umma, c'est-à-dire à la communauté musulmane. Il n'y a pas d'amour de l'homme en dehors de l'umma. C'est exactement la même chose dans le domaine juif. Il n'y a pas d'amour en dehors de la judaïté. Les goy ne sont pas sujets d'amour. La religion chrétienne est la seule qui a mis l'universel au cœur de l'amour. Tout homme est aimable. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on a perdu de vue dans la théologie chrétienne. En tout cas, dans les paroisses, je crois que ce n'est pas très compris. Nous sommes la seule religion dans l'histoire à avoir fait de tout homme un sujet d'amour. De tout homme. D'où les discours perpétuels de pape François sur les migrants, d'où les discours perpétuels dans toute l'histoire de l'Église. On a été les premiers à fonder les hôtels-dieux, on était les premiers à avoir des œuvres de charité, à fonder des écoles. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que précisément, tout homme est sujet de l'amour. Mon point n'est pas tellement sur ce sujet que je crois est relativement compris en christianisme. Mon point est surtout de dire, arrêtons de le politiser, ce point. Non, l'amour de tout homme, ce n'est pas la solidarité socialiste. Non.
Oui, parce qu'un non-chrétien pourrait faire la même chose.
Oui. Ce n'est pas dans le concept de solidarité et ça n'est pas non plus confiné à l'amour des pauvres. Il y a quelque chose qui doit être dépassé, c'est pas parce que je m'occupe des SDF ou de la paroisse Saint-Vincent de Paul que j'ai réalisé ce commandement. Il y a véritablement un universalisme de l'amour. Il y a un universalisme de l'amour qui fait que tout homme est sujet de l'amour de Dieu et donc objet de ma charité, qui ne se limite pas à des concepts politiques. L'amour qui est le sujet de la foi chrétienne est un amour dans lequel un universel humain est toujours le sujet de l'amour. Or, c'est particulièrement important à une époque dans laquelle l'universel est en train d'être rongé, dans lequel le wokisme, le gender et toutes les attaques victimaires sont en train de surtout mettre en avant les singularités, les tribus, l'histoire blessée, la mémoire blessée, la sexualité blessée, remettons l'universel au cœur du discours et l'amour de l'universel. Et alors, il y a une quatrième dimension.
La quatrième, c'est aimer ses ennemis, non ?
Oui, mais est-ce qu'on se rend bien compte de ce que ça a de unique dans l'histoire et à quel point nous ne le faisons pas ? Nous n'aimons pas nos ennemis. Nous n'aimons pas nos ennemis. Nous n'aimons pas
nos ennemis. C'est terriblement exigeant.
L'amour chrétien a pour caractéristique supérieure ce qui est sa stigmate première, ce qui est sa caractéristique unique, unique dans l'histoire. C'est l'amour des ennemis. À quand remonte la dernière fois où j'ai prié pour tel homme politique qui a fait mettre en œuvre des lois non chrétiennes ? À quel moment ai-je prié pour celui qui, dans ma paroisse, a été contre moi au dernier vote de la fabrique d'église ? À quel moment ai-je mis au cœur de ma prière et de ma vie de foi l'amour de tel évêque qui m'a fait du mal, l'amour de tel pape que je n'aime pas, l'amour de tel cardinal dont je déteste les propos ? C'est l'amour des ennemis qui est le test ultime. Vous savez, il y a des crash tests pour les banques. Le crash test de l'attitude chrétienne, c'est l'amour des ennemis.
Et cet amour passe par d'abord la prière pour ses ennemis.
Elle passe évidemment pour la prière pour les ennemis. Elle passe par une révision de conscience des comportements que je peux avoir, que ce soit en politique, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau. Nous devons nous mettre devant la singularité du fait chrétien. Le christianisme n'est pas une religion parmi les autres. C'est une religion qui sort du cadre des religions, qui est une religion dans laquelle on n'a pas à défendre un Dieu abstrait. C'est un Dieu d'amour qui nous appelle à l'amour inconditionnel. Et c'est ça qui est la marque propre du christianisme. Et rien d'autre. Pas le latin, pas fiducia, pas la question du mariage des prêtres, pas la question du pouvoir des femmes dans l'Église, pas autre chose que au centre, au fondement, à la base et au sommet, l'amour.
Et cette exigence de s'aimer les uns les autres, elle ne peut être atteinte qu'avec la grâce.
Ah bah, le Christ est très clair. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous savez, il y a quelque chose qui, dans la théologie, est très intéressant et que je vais vous raconter si vous me laissez une minute, pas plus. C'est la manière dont, dans l'histoire de la théologie, on a compris l'amour entre deux pôles, entre deux axes qui ont l'air complètement contradictoires et qui, en fait, se renforcent l'un l'autre. Alors, d'un côté, il y a le fait que l'amour est une vertu. Ça veut dire que c'est pas juste un sentiment, c'est pas juste une émotion, c'est pas juste quelque chose que je ressens. C'est un effort de la volonté et qui doit devenir un pli de mes attitudes. C'est une vertu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui devient une habitude en moi parce que je l'ai travaillé avec ma volonté. Donc là, il y a quelque chose de volontaire. Oui, aimer, ça demande de la volonté. C'est pareil dans un couple. Hein.
Exactement, c'est ce que j'allais
dire.
Quand
le sentiment est passé, c'est la volonté qui prend le relais. Voilà. Et deuxième élément qui semble contradictoire, mais qui est complètement complémentaire. Deuxième élément, quel pôle qui vient renforcer le côté volonté, c'est la grâce. C'est une grâce et pas n'importe quelle grâce. On dit que la charité est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle vient de Dieu, mais ce n'est pas une vertu d'un Dieu abstrait. Hein. Si vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, c'est un don du Dieu trinitaire. Ce n'est pas un don de Dieu abstraitement pris, ce n'est pas un don du Allah, ce n'est pas un don du Elohim, ce n'est pas un don du Yahvé, c'est un don du Dieu trinitaire. Ça veut dire que la marque propre de la charité, c'est la communion. Ça veut dire que la marque propre de la charité, c'est ce qu'on appelle en théologie la péricorèse, la circumincession. La marque propre de la charité, c'est le don réciproque. Le don réciproque. Au-dessus du sacrifice, il y a la communion. Au-dessus du sacrifice, il y a la communion parce que la vertu de charité est une grâce trinitaire.
Donc communion à vivre en couple, en famille, et puis dans sa communauté paroissiale et bien au-delà.
Et bien au-delà. Et arrêtons de confondre la charité avec le seul amour des pauvres qui n'en est qu'une des dimensions.
Je voudrais qu'on termine cette émission par cette allusion que vous faites à Sainte Marie-Madeleine. Vous reconnaissez qu'il nous manque une théologie de Sainte Marie-Madeleine à propos du visage de l'Église. J'ai trouvé que cette allusion était très intéressante. Qu'est-ce qu'elle apporterait précisément ?
Alors, je vais vous faire une petite confidence. Je crois que il y a eu une évolution récente dans l'histoire de l'Église qui est passionnante et à laquelle je me rallie parfaitement, qui est la mise en lumière du visage de Saint Joseph, qui jusqu'à présent était une piété latérale, et on commence théologiquement à la mettre au centre. Mais je crois que maintenant il serait temps d'une deuxième évolution, qui est de mieux comprendre à quel point Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jésus, sont deux figures qu'il faut voir de manière synoptique, qu'il faut voir de manière à les voir ensemble. Je crois qu'en effet, à côté de la piété mariale, à laquelle personnellement je suis très attaché, très très attaché, il n'y a pas pour moi de théologie possible sans théologie mariale, parce que Marie, c'est dans le creuset de son oui que toute la vie de l'Église s'inscrit et est construite, donc j'ai une théologie mariale très forte. Mais à côté de ça, je crois qu'il faut aussi, il faudrait pratiquement que derrière, en dessous de chaque statue de la Vierge Marie, il y ait une statue de Marie-Madeleine, une statue de cette femme dont on ne sait pas très bien si elle représente trois femmes ou une, mais enfin peu importe, c'est une figure d'Église.
Femme pécheresse.
Femme pécheresse, aimante, probablement très amoureuse du Christ. Hein, on en est, voilà, sans aller dans les délires qu'on peut trouver dans certains romans, certainement qu'elle était amoureuse du Christ. Moi, je note un point, et c'est un point qui est dans l'Évangile, c'est à elle que le Christ apparaît en premier, et c'est à elle que le Christ confie la première mission d'Église. Voilà.
Annoncer sa résurrection.
Annoncer la résurrection. Et je crois que dans Marie-Madeleine, à côté de la figure de Marie, qui est vraiment la proto-figure de l'Église, la figure idéale et réalisée, d'ailleurs pas simplement un idéal abstrait, mais réalisée de l'Église, il y a cette Marie de tous les jours, cette Marie-Madeleine qui nous ressemble peut-être davantage que nous ne ressemblons à Marie, cette Marie-Madeleine qui est nous, qui est moi, qui est vous, qui est cette pécheresse qui aime, cette pécheresse qui est chargée l'annonce de l'Église, et au final, cette autre Marie qui, elle aussi, est une figure de l'Église, peut-être parfois plus ressemblante à nous-mêmes que la Vierge Marie, et qui, je crois, est très complémentaire d'une théologie mariale. Vive Marie-Madeleine.
Merci beaucoup, Emmanuel Tourpe. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « À l'amour que vous aurez les uns pour les autres » aux éditions Arthège. Mais bon retour sur Paris. J'espère à une prochaine fois quand vous viendrez dans notre région. Cette émission Vivante Église est disponible en podcast sur www.radioprésence.com, rubrique Foi puis Vie de l'Église. Et vous pouvez la télécharger et la diffuser à vos réseaux sociaux. Et vous pouvez évidemment réécouter cette émission ce soir à 21h. Merci.
Merci à vous.